Donc, ce dont je vais vous parler, c'est un tout petit peu d'évolution, à la fois d'évolution des espèces et des individus. Je vais essayer d'aller assez vite. La question fondamentale pour un embryologiste, c'est de savoir pourquoi d'une mouche naît une mouche, essentiellement, c'est-à-dire comment la forme est codée dans quelque chose qui passe d'une génération à l'autre. C'est-à-dire quelque chose de relativement constant, c'est-à-dire que quand on voit entrer un singe ou un homme à travers une porte, on distingue tout de suite lequel est le singe et lequel est le sapiens. Et ça a à voir avec, ça a à voir évidemment avec la forme des animaux, des végétaux, des virus d'ailleurs, tous les organismes vivants. Donc c'est un mystère d'une certaine façon, parce que tout sort d'un œuf, et un œuf c'est une cellule, et un organisme c'est plusieurs milliards de cellules, toutes différenciées. Un grand nombre d'événements, de migrations, de morts cellulaires, de différenciations. Et au bout du compte, finalement, on arrive toujours à reconnaître une poule d'un canard. Et c'est étonnant quand on voit d'où ça sort, d'une certaine façon. Ben, une des réponses qui a été donnée à cette question, c'est que de génération en génération, on se passe le plan de l'organisme, un plan relativement conservé, comme vous voyez, et qu'il existe des mutations qui font que ce plan change. Et là, ce que vous avez, c'est une de ces mutations qui a été découverte chez la mouche, en fait, au début du siècle. C'est la mutation dite Antenapedia. Vous voyez ici que dans le plan de cet animal, qui est une drosophile, dans la région antérieure ici, vous avez deux antennes, hein, qui sont en fait les organes olfactifs de la mouche. Et que dans ce mutant, eh bien, le plan a changé. Au lieu de mettre les antennes à l'avant, ils ont mis les pattes à l'avant. Hein, ce qu'on appelle le mutant Antenapedia, les pattes à la place des antennes. Et ça, c'est une modification du plan, c'est-à-dire que les cellules embryonnaires qui sont ici, qui normalement doivent se développer en fonction des instructions génétiques pour former une antenne, ont mal interprété leur position. Au lieu de savoir qu'elles étaient dans la région antérieure, elles ont imaginé qu'elles étaient sur le deuxième segment thoracique de la mouche, et elles ont fait l'organe qui correspond, elles ont fait une patte au lieu de faire une antenne. C'est important parce que c'est une mutation, et quand on a des mutations, on peut identifier les gènes qui sont derrière, et donc on est capable de passer, d'une certaine façon, du gène à la forme, et donc de comprendre comment on peut passer, à travers le passage des gènes de génération en génération, le plan de l'organisme, la forme de l'animal d'une certaine façon. Alors, c'est intéressant sur un plan développemental, parce que, bien entendu, c'est comme ça qu'on construit les animaux. C'est aussi intéressant sur le plan évolutif, parce que, vous voyez par exemple ici ce mutant dit ultrabithorax, où cette malheureuse mouche, qui est un diptère, se transforme maintenant avec deux paires d'ailes, parce que ces organes ici qui s'appellent les balanciers se sont gourés, ils ont pensé qu'ils étaient sur le deuxième segment thoracique, alors ils étaient sur le troisième, donc ils ont fait une autre paire d'ailes, mais ça vous fait penser immédiatement à une libellule, et ça vous laisse imaginer que les mécanismes qui sont impliqués dans le développement peuvent aussi avoir été impliqués à travers des mutations, évidemment, dans l'évolution des espèces. Donc un lien entre le développement, l'évolution et la génétique, qui de cette façon marque une des avancées importantes des sciences biologiques au cours de ce siècle. Donc, chez la mouche, le plan de l'organisme est pour une certaine façon, en tout cas jusque-là, disposé sur un chromosome, en fait un chromosome qui a été coupé en deux. Et ce qui est intéressant, c'est que les gènes qui, d'une certaine façon, sont impliqués dans la morphogenèse des organes les plus antérieurs sont du côté le plus 3' du chromosome, le plus antérieur, et au fur et à mesure qu'on se promène sur le chromosome en allant de 3' en 5', on rencontre des complexes génétiques ou des gènes qui sont impliqués dans la morphogenèse des régions de plus en plus postérieures, comme si vous aviez une sorte de drosophile oculus disposé à la surface de votre chromosome. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement vrai chez la mouche. Les gènes ont été clonés, sont des facteurs de transcription qui régulent l'expression d'autres gènes. Ils ont une signature sur laquelle je vais revenir, qu'on appelle l'homéodomaine, qui est le domaine par lequel cette protéine se fixe sur les chromosomes pour réguler l'expression des autres gènes. Et cette signature est incroyablement conservée, et grâce à elle, on a pu trouver tous les gènes de la famille, non seulement chez la mouche, bien entendu, mais aussi chez tous les organismes, quasiment pluricellulaires en tout cas, et en particulier chez la souris, donc chez l'homme. Et vous pouvez voir que chez la souris, il y a quatre complexes homéotiques, OX, A, B, C, D, qui dérive probablement de deux duplications d'un complexe unique. Et vous voyez qu'il y a une conservation des types de gènes en leur position, c'est-à-dire qu'en rouge, ce sont des gènes qu'on appelle homologues, et probablement qui dérivent d'un gène ancêtre commun, mais qui est aussi orthologue, homologue à travers l'évolution, avec le gène de drosophile. Et d'une certaine façon, je pourrais vous dire que ces complémentations sont aussi fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on peut supprimer la biale chez la drosophile, la remplacer par OXA1, et ça marche très bien, dans le sens inverse aussi pour certains gènes. Cela aussi est probablement une des premières démonstrations qu'il existe un ancêtre commun entre la mouche et l'homme, et que cet ancêtre commun, en fait, aurait vécu il y a environ 600 millions d'années. Donc, c'est vrai pour le corps, c'est-à-dire ces gènes-là sont responsables de la morphogenèse jusque-là à peu près, pas pour les régions antérieures, pas pour le cerveau, pas pour la région de la tête qui dérive du système nerveux. Il faut savoir que la plupart de nos os ou de nos muscles à la face, sur la face ne sont pas du mésenchyme, mais c'est du système nerveux, des dérivés de la crête neurale. Et en particulier, les mêmes gènes de la même famille ont été trouvés aussi dans les régions antérieures depuis très longtemps. Voilà ici, par exemple, un gène ETX, hein, qui est exprimé dans les régions antérieures d'un gène homéotique aussi, qui est un gène qui a la même caractéristique pour bien des aspects, qui est exprimé dans les régions antérieures chez la souris, donc chez l'homme, qu'on retrouve pratiquement chez tous les organismes, en fait chez tous les organismes, mais y compris chez, par exemple, des ancêtres des célomates, chez les hydres, etc. Donc, dès qu'on a inventé l'avant et l'arrière dans les organismes pluricellulaires, eh bien, il y a eu un gène qui a dit « ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière », pour faire très simple, très rapidement. Donc, ces gènes de l'avant sont responsables de la formation de l'avant du cerveau. Je vous signale d'ailleurs qu'ils étaient présents chez Amphioxus, hein, qui est probablement, d'après Darwin, un de nos ancêtres, et puis chez les acidies, nos ancêtres les plus certains. Il est faux de penser que l'avant de la tête, et donc le cerveau, est une invention récente de l'évolution. Hein. Donc, ce que je vous dis là, c'est qu'en fait, c'est une invention ancienne. Donc, dès le début, il y avait quelque chose qui était un embryon de cerveau, du cerveau dont nous sommes évidemment si fiers, puisque c'est nous qui écrivons des livres sur les mouches et pas le contraire. Il reste que, si vous retirez OTD, qui est l'équivalent de TX, le gène de l'avant chez la mouche perd la tête, hein, c'est un grand classique. Ces gènes, comme vous voyez ici, sont exprimés à l'avant de la vésicule cérébrale, que vous voyez ici. Si vous retirez OTX chez la souris, eh bien, elle perd aussi la tête. Hein. Donc là, en fait, on n'a retiré qu'un seul gène OTX. Une chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que ce qu'on appelle le fond génétique est très important. Dans tous ces animaux, on a retiré une copie des deux copies, hein, sur chaque chromosome. Et vous voyez que le phénotype est très varié. Depuis pas de tête du tout, comme si on avait retiré les deux copies, à des têtes relativement raisonnables, enfin pour ce qui est d'une tête de souris en tout cas. Ça veut dire qu'il y a un fond génétique qui est variable et que les gènes ne fonctionnent pas tout seuls, ils fonctionnent dans des réseaux de gènes, bien entendu, et en fait, il y a une grande variabilité de la délétion d'un gène selon le fond génétique de l'individu. Parce que là, ce sont des individus quand même, d'une même espèce, hein, ce sont des souris. Alors, chez nous aussi, évidemment, on l'a, et quand on perd ces deux gènes, on perd aussi la tête. Et cela vous dit qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé entre nous et nos ancêtres communs ? C'est-à-dire que, pour s'en tenir simplement aux mammifères, c'est-à-dire que nous avons augmenté énormément la taille de notre tête, et en même temps, nous avons diversifié énormément les tailles respectives des régions qui sont impliquées dans les différentes fonctions. Donc là, c'est pour vous donner une petite idée de ce qui se passait. Voilà les chimpanzés, Pan paniscus, Pan troglodytes, hein. Voilà le gorille. Normalement, chez des animaux, pourtant, ça, ce sont des homos, hein. Homo pan, panis, que je veux dire homo pan troglodytes. Eh bien, il y a une sorte de linéarité entre le corps, la taille du corps, et le volume du cerveau. Au fond, qu'est-ce que c'est un cerveau? C'est quelque chose qui permet de bouger. Vous voyez un prédateur, vous voulez vous tirer assez vite. Vous voyez quelque chose à manger, vous voulez le récupérer. Vous voyez un partenaire sexuel, vous faites ce que vous voulez, soit vous tirez, soit ça dépend un petit peu. Mais il faut bouger, quoi. Hein. Les plantes n'ont pas de cerveau parce qu'elles bougent peu. Les minéraux viennent par le sol, et la nourriture donc par le sol aussi, l'énergie par le soleil et les partenaires sexuels par les insectes. Donc il n'y a pas besoin, ou le vent, donc il n'y a pas besoin de se remuer énormément. Donc c'était assez normal, si vous voulez, que, d'une certaine façon, la taille du cerveau, qui est un organe qui est fait pour bouger, soit proportionnelle à la surface du corps ou à la taille du corps. Vous voyez que tout de suite, il y a un artefact, hein, et les artefacts, ils apparaissent avec nous, hein, Homo. Vous voyez qu'il y a 2,5 millions d'années, en gros, les Australopithèques sont déjà un tout petit peu en dehors de l'épure. Homo habilis, 1,8 million d'années, là. Erectus, 1,2 million d'années, on est déjà à tout à fait. Et alors, Homo sapiens, c'est l'artefact majeur, on est tout à fait en dehors de la norme, c'est-à-dire qu'il y a 120 000 ans, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 1400 cm3 pour 60 kg, 70. C'est quasiment 1000 cm3 de trop. Hein. 400 cm3, c'était bien assez. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont nés avec ces 1000 cm3, bien entendu. Ça fait des poètes, ça fait des assassins, ça fait des suicidés, ça fait beaucoup de choses. Ça fait aussi des savants, et c'est pas mal, mais bon, finalement, on aurait peut-être été mieux à rester là, mais il n'y a pas de marche arrière dans l'évolution. C'est un truc que Patrick vous confirmera. Alors, on a augmenté la taille, c'est-à-dire que le cerveau a augmenté de taille et s'est développé beaucoup plus lentement. Vous voyez ici, par exemple, le pantroglodytes, à la naissance, a déjà 50% de son cerveau total, a déjà un gros cerveau. Et nous, à la naissance, eh bien, notre cerveau, il a environ 10% de sa taille finale. Donc, un développement extrêmement lent, et à vrai dire, un développement qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que le cerveau est en développement perpétuel. Et c'est, disons, des choses qui, à mon avis, devraient être prises en compte par les gens qui font des sciences cognitives. Le cerveau n'est pas une machine, c'est un organe vivant qui, comme le foie, comme la rate, comme la peau, a des cellules souches, se développe, dégénère et se recrée à chaque instant. Même s'il y a des choses qui restent constantes, ça vaut mieux parce que... Il y a aussi des choses qui s'effacent. Hein. C'est bien de savoir où on a mis ses clés, mais pas celle d'il y a 6 mois, celle de la veille, parce que sinon on sera un petit peu enquiquiné. Donc, non seulement on a augmenté la taille du cerveau, comme vous pouvez voir, entre, par exemple, si un lémurien et si un humain, c'est pas la même échelle, on l'a vraiment augmenté, mais en même temps, le cerveau est compartimenté, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui s'occupent de la vision, d'autres qui s'occupent de l'audition, d'autres qui s'occupent de l'olfaction, certaines du langage, en tout cas chez Sapiens, et vous voyez que tous ces petits symboles marquent ces territoires. Or, ces territoires sont liés au combinatoire d'expression de gènes de développement. C'est-à-dire qu'en fait, non, ça ne suffit pas d'augmenter la taille du cerveau, il faut aussi changer les bords. Hein. Si vous voulez avoir plus d'aire cognitive, il faut changer les bords, c'est-à-dire qu'il faut changer les domaines d'expression de ces gènes de développement, dont beaucoup sont de la famille de ces protéines domaines. Donc, qu'a fait l'évolution? Elle a augmenté la taille du cerveau, d'une part, mais elle a aussi changé les bords. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner plus de place à la cuisine et moins de place à la salle de bain, ou le contraire. Plus de place à la salle à manger et moins à l'antichambre. Et pour ça, il faut bouger les bords entre les domaines d'expression de ces gènes. C'est une chose qui est très importante. Donc, on peut bouger les bords. Hein, on peut s'amuser à bouger les bords. Les généticiens font ça tous les jours maintenant. Donc voilà ici, par exemple, vous avez le bord entre le système visuel primaire et le système sensoriel primaire ici, S1V1. Vous voyez que si vous retirez ce gène qui s'appelle le MX2, eh bien, vous allez agrandir la cuisine, enfin les aires sensorielles du primaire, diminuer les aires visuelles. Si vous supprimez PAX6, qui est un autre gène de développement de la même famille, vous augmentez les aires visuelles et vous diminuez les aires sensorielles. Vous pouvez aussi modifier les aires motrices. Donc, en jouant sur le nombre de copies de ces gènes, eh bien, vous êtes capable de vous amuser à changer, si vous voulez, les tailles respectives des différents compartiments. Vous faites bouger les bords. Et c'est probablement ce qu'a fait l'évolution, c'est non seulement de jouer sur le temps d'expression de ces gènes, enfin, c'est pas tellement modifier l'expression de ces gènes, parce que vous avez vu que chez la mouche, oui, vous prenez un gène d'homme, vous retirez le gène chez la mouche OTD, vous le mettez OTX2, qui est le gène d'homme, vous réparez la mouche, elle retrouve la tête. Hein. Vous prenez un gène de mouche, vous le mettez chez la souris récupère la tête aussi, donc ça marche. On ne l'a pas fait chez l'homme, pour des raisons qui sont assez compréhensibles, mais fondamentalement, ça marche. Donc ce qui est vraiment important, ce ne sont pas tellement les séquences codantes. C'est pour ça que quand on dit il y a 20 000 gènes chez l'homme, il y a autant que chez la souris, on s'en fiche, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, ce n'est pas tellement les séquences codantes, ce sont les séquences régulatrices. Alors quand on modifie les séquences régulatrices, qu'est-ce qu'on fait? On modifie les niveaux d'expression et les temps d'expression de ces gènes, et donc on est capable de modifier les bords. Donc j'avance là-dessus. Voilà, ici par exemple, hein, voilà un bord. C'est le bord entre le domaine d'expression de TX2 de nouveau et d'un autre qui est derrière, qui s'appelle GBX2. Et au bord, qu'est-ce qui se passe? Je fais un petit signal, et ce signal, c'est lui qui va décider que je fais un autre compartiment intermédiaire. Mais surtout, vous voyez ici, si je retire une copie de GBX2, voilà, c'est une souris normale, là c'est le bord, C'est un bord qui est intéressant parce que c'est un bord qui est important dans la génération des neurones dopaminergiques qui sont impliqués dans le comportement, mais je passe, vite là-dessus. Je retire trois copies d'OTX, je n'en garde qu'une seule. GBX2 qui la prend le dessus, bzoum, hein, et maintenant mon bord il vient ici. J'ai un tout petit cerveau antérieur et j'ai un grand mésencéphale. Et ça, ça peut se faire tous les jours dans un laboratoire. On peut vraiment manipuler le système de façon assez plaisante. Avec des conséquences, comme vous pouvez le voir, sur le niveau comportemental. Hein, voilà une souris, par exemple, qui est tout à fait anormale sur le plan du comportement moteur. Donc, ces gènes, c'est quoi ? Ce sont des gènes qui, je vous l'ai dit, régulent la transcription, c'est-à-dire qu'ils sont dans le noyau, enfin, leurs protéines, les produits, ils vont dans le noyau, ils régulent la transcription d'autres gènes, c'est-à-dire qu'ils régulent les domaines, les niveaux d'expression de programme. Hein. Il se trouve que mon laboratoire a fait une découverte fortuite, mais qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui est assez rigolote. La transcription, qui normalement restent dans le noyau tranquillement et font leur petit boulot, comme on dit, en cellule autonome, eh bien, sont capables d'être sortir et de rentrer dans l'autre cellule d'à côté. Donc ça, c'est extrêmement troublant, c'était très troublant, mais complain to God, hein, on n'y est pour rien. Ça rentre, ça sort, ça gêne, je passe. Et au fond, ça peut être des mécanismes assez intéressants pour faire des bords. Hein, parce que beaucoup de ces gènes s'auto-régulent positivement et annulent la régulation positive de leurs voisins. C'est-à-dire que si j'ai OTX2, GBX2, entre les deux j'ai un bord, OTX2 active OTX2, GBX2 active GBX2, OTX2 inhibe GBX2, GBX2 inhibe OTX2. Ce qui fait que fondamentalement, ce sont des protéines infectieuses. Vous voyez ? Chaque fois qu'elle passe dans la cellule d'à côté, elle s'active. Mais maintenant, si elle rencontre un copain qui va dans l'autre sens et qui l'inhibe, eh bien, à ce niveau-là, où B inhibe A et A inhibe B, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je fais un bord. Et si je diminue la quantité de A, eh bien, je vais déplacer mon bord rouge dans ce sens-là. Les rouges vont aller plus par là. Si je diminue B, eh bien, A va aller dans l'autre sens. Et fondamentalement, on peut imaginer que ce sont des mécanismes qui sont permis, d'une certaine façon, de modifier la place des bords au cours de l'évolution. Alors, il y a beaucoup de bords, hein, comme vous voyez ici, je passe. L'autre problème, qui est un problème qui est assez intéressant au cours du développement, c'est le problème du guidage axonal. Combien de milliards de neurones, je ne sais pas. Je n'ai jamais réussi à retenir le nombre de milliards de neurones qu'il y a dans un cerveau, mais il y en a beaucoup, voilà. Et il y a beaucoup de synapses, encore beaucoup plus que de neurones. Il n'y a pas un neurone qui a plus de 5 contacts synaptiques d'un autre dans un cerveau. Ça vous dit le nombre de synapses qu'il y a. Et il faut quand même que le cône de croissance, qui est le bout de l'axone au moment du développement, aille chercher, se promène dans ce plan, dans ce même cet espace tridimensionnel, aille trouver ce qui se passe de l'autre côté. Donc j'aime assez l'idée, pour rien vous cacher, que ces facteurs de transcription qui sont de l'information positionnelle. De toute façon, je prends une cellule dans votre cerveau, je sais quels sont les facteurs de transcription de cette famille des protéines à monodomaine qui y sont, et je peux vous dire d'où vient cette cellule. Hein. Donc c'est vraiment, comme vous avez un petit drapeau, je suis une cellule de Poitiers. Hein. Poitiers, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être en honneur de Raffarin. Donc, voyez ici que si mon cône de croissance se promène, qui se déplace dans cet espace, cet échiquier à 9 cases, eh bien, une combinatoire de protéines à monomène définie par exemple B2, si ces protéines passent dans le cône de croissance, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le cône de croissance va savoir qu'il est sur B2. Il aime pas, il continue ou il s'arrête. Quand il arrive sur l'autoroute, il arrête de réfléchir et conduit tout droit parce que, évidemment, personne ne réfléchit sur une autoroute. Mais l'autoroute, ça peut être un faisceau axonal, ça peut être de la laminine, n'importe quoi. Et quand il sort de l'autoroute, qu'il faut aller chercher la petite auberge le soir où il va aller s'amuser un petit peu, il n'est pas parti tout seul, là, il faut commencer à lire les panneaux et s'orienter. Et à ce moment-là, de nouveau, il commence à relire ce qui se passe. Donc, l'idée que ce passage pourrait servir à ça, nous, ça nous a intéressés. Et en fait, voilà, hein, il y a un exemple très connu qui est le système de la rétine et du tectum. La rétine nasale projette sur le tectum postérieur, la rétine temporale, la partie temporale de la rétine sur le tectum antérieur, le tectum c'est du cerveau, un morceau de cerveau, et puis il y a un gradient antéro-postérieur d'Engrel dans le tectum, vous voyez ici, donc nasale postérieur, temporale antérieur, un gradient de protéine Engrel exprimé dans le tectum. L'idée, c'est que, en fait, ces protéines passent et régulent, disent, par exemple, à cet axone, où il est le long de l'axe antéro-postérieur. S'il y a beaucoup d'engrels, c'est qu'il est loin. S'il y en a peu, c'est qu'il est devant. Les temporaux s'arrêtent à un certain niveau. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des cônes de croissance, on les a mis dans un gradient. Qu'est-ce qu'on voit ? tous les nasaux vont vers la source, tous les temporaux s'en écartent. Et là, deuxième complication, je suis désolé, c'est pas un phénomène transcriptionnel, c'est un phénomène traductionnel. Ça n'agit pas sur la transcription, ça agit sur la traduction. Ça, vous le bloquez avec des bloqueurs de la traduction. Tu compliques tout, disent certains de mes amis du 15e arrondissement, complain to God, deuxième réponse, c'est pas de ma faute. Ces facteurs de transcription ne savaient pas qu'ils étaient aussi des facteurs de traduction. Maintenant, ils le savent, et donc ça va aller beaucoup mieux. C'est intéressant comme histoire, parce que ça veut dire qu'en fait, le facteur de transcription passe et va réguler la traduction dans le cône de croissance. Eh bien, évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que ça marche aussi comme ça chez l'adulte. Et qu'est-ce qui se passe chez l'adulte? C'est qu'on peut réguler la traduction dans la synapse, et de nouveau là, on a un phénomène qui a à voir avec ce qu'on appelle la mémoire et la synaptogénèse, non seulement la synaptogénèse, mais aussi la mémoire, c'est-à-dire l'apprentissage. Et de nouveau, c'est un phénomène développemental qui est un phénomène qui a à voir avec les phénomènes cognitifs. Donc, un petit exemple, vous connaissez tous la période critique dans le système visuel. Vous prenez un animal, vous lui fermez un œil, hein, eh bien, son cortex binoculaire, qui reçoit les afférences des deux yeux, si vous lui fermez un œil, il ne recevra des afférences que plus que d'un œil, et donc il aura perdu la vision binoculaire. Si vous rouvrez l'œil avant la période dite critique, il récupère. Si vous rouvrez l'œil après, c'est fini, il ne sera jamais binoculaire. Il sera en blyope. Pareil chez l'homme, à 4 ans, si avant 4 ans, un enfant louche, il a une vision uniquement avec un seul œil, l'œil qui ne regarde pas le nez, eh bien, si vous l'opérez avant 4 ans, il récupère une vision binoculaire. Si vous l'opérez après 4 ans, il restera en blyope le restant de ses jours. Donc ça, c'est assez drôle. Enfin bon, chez les souris surtout. Et parce que vous pouvez faire les manips de ce genre, donc que vous fermez un œil. Et ce que je vous montre ici, c'est que ça veut dire qu'il y a en fait une innervation d'une zone binoculaire ici dans le cortex visuel par des afférences qui viennent de la rétine contralatérale et de la rétine ipsilatérale, après évidemment un relais dans ce qu'on appelle le thalamus. Eh bien, quand vous regardez votre cortex visuel, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'au cours du développement, il y a un gène de la famille qui s'appelle OTX2, encore un de ces gènes, ces protéines, homélomènes, qui arrivent juste avant la période critique, qui s'accumulent dans le cortex, qui se concentrent dans des neurones, qui sont les neurones dont la maturation est responsable de cette perte de plasticité. Hein? Quand vous perdez la plasticité, ça veut dire que vous ne pourrez pas récupérer quand on va rouvrir l'œil. Et dans ces neurones dont la maturation, ce neurone à part valbumine, en vert ici, dont la maturation est responsable de la perte de plasticité, eh bien, ce facteur de transcription arrive là-dedans, il s'y accumule, et quand je dis il arrive là-dedans, je ne rigole pas, il arrive vraiment là-dedans parce qu'il n'est pas synthétisé dans ces neurones. Il vient du thalamus. Vous voyez qu'il n'y en a pas de messager dans la zone, même par RT-PCR, vous ne voyez pas. Vous injectez les facteurs de transcription dans l'œil, il peut remonter et aller jusque dans le cortex et déclencher en fait la période critique. Il la déclenche. Hein. Si vous infusez la protéine dans le cerveau, elle s'accumule dans ces neurones à l'entrée de leur maturation et vous déclenchez la période critique. Donc, de nouveau, ça passe dans la cellule d'à côté, ça déclenche la période critique, c'est-à-dire que ça mature la synapse. Et ces facteurs de transcription, maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est qu'ils ne sont pas uniquement présents très tôt au moment où je décide où je mets les bords, pas uniquement au moment où je décide comment je forme les réseaux, pas uniquement au moment où je décide que je vais maturer ces réseaux pendant toutes les périodes critiques à mes organismes, mais ils sont aussi présents chez l'adulte. Ici, par exemple, vous voyez un de mes facteurs favoris qui s'appelle NGREL, qu'on trouve dans la substance noire, qui est une substance qui dégénère dans la maladie de Parkinson, c'est là où il y a tous les neurones dopaminergiques. En vert, les neurones dopaminergiques, en rouge, les neurones qui synthétisent cette protéine. Donc, leur fonction chez l'adulte, on ne la connaît pas encore. Enfin, il y a une fonction de survie de ces neurones, c'est clair, mais aussi très probablement, sur la base de ces expériences, ça c'est une proposition que je vous fais, une fonction dans la régulation locale de la traduction dans la synapse, c'est-à-dire que, fondamentalement, on peut imaginer que des phénomènes dits de plasticité synaptique, LTP, LTD, sont liés au passage de ces facteurs de transcription qui vont réguler la traduction sous la synapse au cours de l'activité physiologique. En gros, est-ce qu'il y a de l'espoir? Bon, c'est pas mal que ce soit fixe, ces choses-là. Donc, il y a peut-être une chose qui vous a un petit peu apparue ici, hein. C'est que quand j'ai infusé ce facteur de transcription dans le cerveau, il est entré uniquement dans les neurones par valbumine. Si j'en infuse un autre, il rentre dans d'autres neurones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a probablement des sites de fixation spécifiques à la surface. Alors, ces sites de fixation spécifiques à la surface sont probablement des sucres complexes. C'est dur les sucres complexes parce qu'il n'y a pas beaucoup de chimistes des sucres. Donc c'est plus facile de faire de la génétique. Je ne dis pas ça pour les amis généticiens. Moi-même, j'aime bien la génétique. Hein, mais c'est plus facile de faire de la biologie moléculaire que de synthétiser des sucres. Mais il se trouve que ces sucres sont très très riches en informations. Et il y a un type en Italie qui s'appelle Lamberto Maffei, qui est un remarquable scientifique, qui avait retiré des sucres à la chez un adulte. Hein, il a retiré des sucres à la surface de son cortex. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré la plasticité synaptique. C'est-à-dire qu'il est venu en amont de la période critique. Quand on retire les sucres, à ce moment-là, on récupère une plasticité cérébrale. Et comme vous pouvez voir ici, si vous retirez les sucres à la surface de votre cortex, vous perdez OTX2 dans vos neurones. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, ce que j'essaie de vous faire avancer comme idée, c'est que fondamentalement, la plasticité, c'est le default pathway. On est plastique. On ne peut pas rester plastique, parce que si on restait plastique, on serait Alzheimer. Hein, on oublierait tout de suite. Donc, il faut quand même qu'il y ait une période critique qui passe pour qu'on puisse garder quand même les souvenirs de ce qui nous est arrivé il y a quelques années, même si on les reconstruit un petit peu pour les enjoliver. Donc, l'idée, c'est que c'est justement quand on se raconte des histoires, quand on se souvient des trucs, eh bien, en fait, on fait passer ces protéines et puis on maintient la synapse dans un état rigide. Si vous retirez ça, que vous bloquez le passage de la protéine, à ce moment-là, vous redevenez plastique. Alors, évidemment, ça peut être embêtant parce que c'est un état quasi alzheimérien. En même temps, ça peut être utile. Hein. Vous avez un chagrin d'amour, un peu de sucrase et vous redémarrez. Vous allez au Japon, vous voulez apprendre le japonais, un peu de sucrase, puis vous pouvez apprendre le japonais. Si on pouvait revenir en amont de la période critique, ce serait quand même très sympa. Hein. Moi, je serais assez pour dans certaines circonstances. Mais bon, il y a des bons souvenirs qu'il faut conserver aussi, donc il faut faire attention, c'est toujours un équilibre, ces choses-là. Donc, ce que je vous propose au fond, c'est que ces facteurs de transcription sont des morphogènes chez l'adulte, et que la morphogénèse continue chez l'adulte, et qu'énormément des processus cognitifs, fondamentalement, sont liés à ces mécanismes, en gros, le message, sont liés à ces mécanismes de morphogénèse adulte. Alors, je passe là-dessus. Je passe là-dessus parce qu'on est un peu pressés tous. Hein. Voilà, surtout moi. Donc, l'idée, c'est un petit peu celle-là. Dans une synapse, ou entre deux cellules, eh bien, il y a une régulation locale de la traduction, ça c'est vrai, qui est liée à l'activité, à l'interaction entre les deux cellules, mais elle n'est pas uniquement locale, elle peut aussi être ce qu'on dit non-autonome, c'est-à-dire que le facteur de transcription peut passer de l'autre côté, de transcription-traduction, peut passer de l'autre côté, elle régule la traduction de l'autre côté, et quand il fait ça, qu'est-ce qui passe? Il passe une information positionnelle. Hein, c'est-à-dire que, imaginez que vous êtes un réseau vous êtes un neurone, vous recevez 5 types qui vous balancent du glutamate, hein, c'est un truc qui dépolarise. Mais il y en a un qui vient de Poitiers, l'autre qui vient de Bordeaux, le troisième qui vient de Strasbourg, le quatrième, je ne sais pas où. Mais tous, ils vous donnent du glutamate. Comment est-ce que vous savez répondre? À qui vous allez ouvrir la porte? Au Bordelais, au Poitevin, au Strasbourgeois? Si en même temps, ils vous glissent sous la porte une carte d'identité disant « je viens de Strasbourg » ou de Poitiers, vous pouvez décider si vous ouvrez la porte et si vous l'ouvrez ou si vous la fermez. Mais d'une certaine façon, ça ajoute une information topologique à une information pharmacologique. Donc ça, je pense que dans un réseau neuronal, c'est une information qui n'est pas négligeable, d'autant plus que ce facteur va réguler la plasticité de la synapse au niveau morphologique. Il va modifier la forme de la synapse. Parce que ces messagers qui sont traduits ici, je ne vous ai pas dit ce que c'était, mais c'est des messagers qui sont impliqués pour une grande part dans, dans la forme de la synapse. On augmente la taille du bouton, on la réduit. Synaptique, hein, bien sûr. Donc, voilà, quoi. J'ai un homonculus génétique. J'ai un homonculus du miroir, hein, je construis les hommes d'après mes complexes Hox qui sont dans mes chromosomes, et j'ai le système sensoriel, bien sûr, qui monte, hein, je vous ai montré ça avec le système visuel, mais qui monte, et je vous propose qu'il monte par un transfert de facteurs de transcription de cette famille, qui serait sécrété au niveau du thalamus et qui reconstruirait les réseaux sous la forme d'un homonculus, mais déformé, parce que la montée est dépendante de l'activation, c'est-à-dire plus j'active, et plus j'active les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans cette modalité sensorielle qui a été activée. Et puis ensuite, ça monte au cortex. Et ça, ça reste déformable toute la vie. L'idée, c'est que ces constructions dites homonculaires, hein, restent déformables. C'est pas un rêve, hein, elles existent, on sait très bien, les électrophysiologistes ont bien montré qu'il y avait des représentations, mais qu'elles sont déformées en fonction, évidemment, de l'importance de l'activité sensorielle. Et chez l'adulte, voilà, donc vous apprenez à faire du violon, eh bien, la taille du doigt augmente dans le cortex sensoriel. À 5 ans, c'est encore plastique. À 10 ans, ça reste plastique. C'est de moins en moins plastique, mais ça ne retombe jamais à zéro. Ce que je vous propose, c'est de retirer un peu les sucres ici pour remonter au niveau et reprendre le violon. C'est du rêve? Pas forcément. On peut espérer que dans les années qui viennent, on pourra continuer l'évolution. Je vous passe ça, parce que mais on pourra continuer l'évolution, mais de façon un petit peu différente. C'est-à-dire, au lieu d'attendre de se mettre à deux pour en faire un ou deux, ce qui n'est pas très rapide sur le plan évolutif, hein, vous verrez que les bactéries font mieux que nous, de ce point de vue, je pense, et même les nématodes et les mouches. Mais Sapiens, on se met à deux, on en fait 2,2, ça nous prend 40 ans. Je ne crois pas à la sélection naturelle à ce rythme. Je crois que si on veut survivre, il faudra fabriquer les instruments de notre survie. Mais en fait, c'est quand même dommage d'en rester là. Je pense que ce serait sympa d'augmenter notre capacité cognitive au-delà de ce que la nature nous a donné. Alors, on a déjà inventé le vélo, la voiture. Le vélo nous a rallongé les jambes, hein. La voiture aussi. On a inventé les ordinateurs pour augmenter le cerveau. Ce qu'on pourrait se proposer, c'est de carrément mettre l'ordinateur dans le cerveau. Je trouve ça absurde d'avoir cette espèce de rein artificiel. On peut imaginer que bientôt, on pourra utiliser ces systèmes de plasticité cérébrale pour aller voir un tout petit peu comment on peut modifier la morphogénèse adulte. Hein, et donc, ça commence à se faire, en tout cas, pas chez... Bon, je dis ça par matière de plaisanterie, augmenter nos capacités cognitives, bien sûr, mais en même temps, c'est aussi augmenter nos capacités de réparation d'un cerveau. Hein. Si vous êtes tétraplégique, c'est bien de pouvoir ouvrir une porte par la seule force de la pensée, par exemple. Hein. Donc, si vous avez une machine qui est capable d'interpréter « je veux ouvrir la porte » et commander un robot à distance pour qu'il l'ouvre parce que vous ne pouvez pas bouger, ce sont des développements qui sont des développements extrêmement intéressants. C'est-à-dire que la technologie peut être un développement très intéressant dans des cas de maladies, comme ils disent, neurodégénératives. C'est pas uniquement des greffes de cellules. Ça pousse, on ne sait pas comment ni pourquoi. Donc, si on a accès à des molécules qui ont des activités morphogénétiques, on peut imaginer faire des petits réseaux de puces intracérébrales et puis modifier les réseaux neuronaux justement en balançant des morphogènes de type adulte et provoquer des apprentissages, des chimères homme-machine, dont on peut espérer qu'elles nous permettront de progresser encore dans l'évolution, mais de façon évidemment technologique et plus uniquement en nous livrant à des plaisirs qui resteront autorisés et même multipliés grâce aux puces, je pense. On pourra avoir encore plus de plaisir si on est capable de s'appareiller. Intellectuellement, je veux dire. Je vous remercie.